si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral, nous sommes samedi 24 septembre de l'an de grâce 2011. Émission en direct pendant une heure au cœur des correspondances de Manosque avec un beau sommaire. Il est rappeur, actuellement en résidence aux correspondances au Rossé. Et parmi nous, l'écrivain François Bonne est aussi des nôtres. Il publie Un ange noir aux éditions Verticales et il a contribué à l'aventure Trace de vie. Recevrons également un peu plus tard dans cette émission Marie Delettre, fervente lectrice. Elle va publier son premier roman. Et puis nous écouterons une lettre du renard à la poule par Raphaël France Kuhlmann et le directeur des correspondances Olivier Chaudançon détaillera le programme du week-end. Soyez la bienvenue en terre de correspondance. Et aujourd'hui, l'émission est proposée et conçue par James. Bonjour James.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Commençons l'émission avec la présentation programme du week-end des correspondances présentées par Olivier Chaudançon.
Olivier Chaudançon, ce week-end des correspondances s'annonce riche et varié.
Oui, on attaque dès 10h avec une table ronde sur la responsabilité de l'écrivain. La chercheuse Gisèle Sapiro viendra nous expliquer un peu comment au fil des siècles les écrivains ont eu des limites qui étaient la censure, les sujets tabous, etc. Et donc elle analyse comment les choses ont évolué. Et précisément dans cette discussion, dans une seconde partie, on fera réagir les auteurs invités aux correspondances sur quelles limites ils se donnent dans leur écriture lorsqu'ils abordent des sujets réels, la vie intime, des sujets politiques, etc. Voir un peu comment les choses ont évolué. À 11h, les apéros littéraires qui recevront Lydie Salvert et Véronique Bizot. Et puis l'après-midi, Véronique Bizot, que je viens de citer, sera en dialogue avec Karine Resset pour deux ouvrages qui, l'un et l'autre, tournent autour de l'idée de maison, maison de famille, qui permet de dérouler toute la vie d'une famille et de ses différentes composantes. À la même heure, Lydie Salvert, pour un livre que je trouve personnellement assez remarquable, ça s'appelle Hymne, c'est une sorte de biographie de Jimi Hendrix, une biographie très inspirée, et elle viendra le lire en compagnie d'un guitariste, ce qui semble naturel, le guitariste étant Claude Barthélémy, que le public des correspondances connaît bien. L'après-midi toujours, Véronique Ovaldé, qui parlera de son dernier livre, Des vies d'oiseaux. Morgane Sportes, qui a écrit un livre assez saisissant, qui s'appelle « Tout, tout de suite », et qui reprend l'affaire Ilan Halimi, l'enlèvement de ce jeune juif. Enfin, je le qualifie ainsi parce que c'est ça qui lui a évalu ce kidnapping, puisque un groupe supposait qu'un juif était riche et donc l'avait kidnappé pour ça. Et c'est étonnant, cette plongée dans la misère culturelle, finalement, de ceux qui ont fait cette chose-là, et il nous raconte un fait divers comme si on était dans la tête des protagonistes. Et puis ce rendez-vous avec Lire dans le noir, chaque année Aurélie Kiefer, qui à l'Hôtel Volant reçoit certains invités du festival. Samedi à 15h, Barbara Carlotti, mais aussi, et ça ne figure pas dans le programme, Laurent Poitrenaud, qui viendra dialoguer avec elle avant sa lecture. Et dimanche, à la même heure, 15h, et là, Aurélie Kiefer recevra Denis Lachaud. Autre rencontre très forte, Shumona Sinha et Dina Mangestu. Dina Mangestu est américano-éthiopien, Shumona Sinha d'origine indienne, mais elle écrit en français. Et je m'attarde quelques instants, elle a écrit un livre qui s'appelle « Assommons les pauvres », qui est sidérant de force et très très étonnant. Elle raconte son rôle de traductrice dans ces endroits où on reçoit ceux qui demandent l'asile politique. Voilà, un livre vraiment qui vaut le détour. Christian Oster, qui viendra également pour parler de son livre « Roulé », une sorte de fuite comme ça, très très séduisante. Et puis une lecture-projection, François Vergne, écrivain, Simon-Pierre Hamelin, photographe, pour un livre Tanger facsimilé, donc un livre qui se passe à Tanger, un récit très fort, publié par les éditions du Bec en l'air, qui ont été longtemps à Manosque, qui sont maintenant à Marseille. Et donc ça se passe dans la petite salle du théâtre, puisqu'il s'agit de voir les images en même temps que l'on entend le texte. Une grande rencontre encore, Alexis Génie et Dalibor Friou, deux premiers romans qui m'ont sidéré par leur maîtrise, leur ambition. Alexis Génie a écrit L'art français de la guerre, on a beaucoup parlé de ce livre et vraiment à juste titre. Et d'ailleurs, Dalibor Friou parle, dans un livre qui s'intitule Brut, du moment où le pétrole viendra à manquer et imagine des choses très puissantes. À 18h, une rencontre avec Camille de Toledo pour son livre « Vie potentielle », qui est un livre assez étonnant, fait de différentes micro-fictions. Et puis à la fin de chaque histoire, Camille de Toledo commente l'histoire en disant quelle était son intention et fait le lien avec sa propre vie. Et puis à la même heure, Marie Dariussec pour son dernier livre « Clève », qui évoque l'adolescence et la fascination des adolescents pour la rencontre amoureuse et physique et cette question qui taraude, quand est-ce que je vais faire l'amour pour la première fois, comment ça va se passer. Voilà, c'est un livre extrêmement bien vu. Et toujours à la même heure, deux écrivains, Philippe Jaénada et Patrice Pluyette, pour deux livres qui sont des fantaisies profondes, mais des fantaisies. Philippe Jaénada, La femme et l'ours, c'est extrêmement drôle, avec des passages un peu glaçants également. Et Patrice Pluyette, qui se permet également tout, c'est une espèce de fable. Et dans les deux cas, on rit beaucoup, ce qui n'est pas courant en littérature. À 18h toujours, Lionel Trouillot, pour son dernier livre, La belle amour humaine, un de ses plus beaux livres, je trouve, qui se passe bien entendu à Haïti, l'histoire d'une femme qui revient pour comprendre l'histoire de son père. Ça nous apprend plein de choses sur cette île, sur sa réalité et aussi sa culture et sa culture de la magie également. Vraiment, c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. Et puis, on aborde le tout début de soirée avec Rossé, le rappeur, slammer que nous avons en résidence depuis 15 jours maintenant, qui est venu là pour préparer un concert littéraire qu'il va présenter donc à 19h au Café Provisoire. Et Rossé va nous faire entendre la littérature qu'il aime. Il va la lire, la slammer, la mettre en musique et puis nous faire entendre ses propres morceaux. Soirée également à 21h dans la grande salle du théâtre, avec le dialogue entre deux écrivains, Émile Cioran et Armel Dierne. Cioran, le pessimiste roumain qui fait des aphorismes d'une noirceur tellement absolue que ça en devient drôle parfois. Et puis Armel Dierne, le poète, traducteur, solaire. Voilà, donc étonnant qu'une amitié aussi profonde ait lié deux êtres aussi différents. Et on va rentrer dans une correspondance éblouissante où tout y passe, les petites choses de la vie, la profondeur de l'amitié, les considérations sur le monde, l'humour, la vivacité. Et deux comédiens d'exception pour porter ces voix-là, deux grands du théâtre, Martial Di Fonzobo et Laurent Poitrenaud, que l'on voyait notamment cet été à Avignon. Il tenait le rôle principal dans Yann Karski. C'est vraiment deux comédiens époustouflants. Voilà. Donc je pense que leur voix sur ces textes-là va nous apporter vraiment quelques moments d'exception. Et puis on termine la soirée à 23h avec Arthur H, qui lui a choisi de lire en quelque sorte les poètes de la négritude, Aimé Césaire, Édouard Glissant, mais aussi Daniela Ferrière qui est venue déjà à Manosque. Arthur H. est fasciné par cette littérature, sa sensualité, sa poétique, et donc a voulu créer une sorte de lecture musicale ou concert littéraire autour de ces textes-là. Je crois que ce sera un grand moment.
Et puis le lendemain dimanche, on peut flâner aussi, toujours à Manosque, dans les correspondances.
Toujours avec un démarrage en fin de matinée. Et là, nous aurons d'une part les apéros littéraires avec Brigitte Giraud et Dino Mangestu. Et puis une rencontre avec une auteure qui nous vient du Canada, Alyssa York, pour son dernier livre, Fauna. À 11h toujours, Patrick Deville, grand écrivain voyageur, pour son livre « Kampuchea ». Et là, il revient sur l'histoire mouvementée, cruelle du Cambodge. Et puis Denis Lachaud, pour son livre « J'apprends l'hébreu ». Et là, il nous en fera une lecture, puisque Denis Lachaud a été comédien. Donc, il lira d'abord son texte, et puis ensuite, il y aura un échange avec lui. Et en début d'après-midi, on va rencontrer Éric Reinhart, auteur d'un des livres événements de cette rentrée littéraire, Le Système Victoria. Il nous avait déjà beaucoup impressionné la dernière fois quand il est venu parler de Cendrillon. Et là, c'est un livre sur le capitalisme, c'est un livre avec aussi l'histoire d'une tour, la plus grande tour d'Europe qui est en train d'être érigée, puisque le narrateur est en quelque sorte chef de chantier qui à un moment se fait vamper par une femme incroyable, Victoria, directrice des relations humaines d'un grand groupe, et il s'ensuit une histoire assez torride et qui dit beaucoup de choses sur notre monde contemporain. En même temps, à la même heure, lecture musicale, Claudine Galéa, qui a écrit un texte où elle a souhaité être accompagnée d'un musicien, Jean-Marc Montera. Et là, c'est une création que nous faisons avec Actoral à Marseille, puisque ça a été présenté également à Marseille. C'est une sorte de coproduction et ça évoque la figure de Patti Smith. Et puis nous continuons avec un des grands moments, je pense, du festival, c'est Philippe Djian qui nous fait l'amitié de venir. Il aime pas trop parler en public de son travail, alors il était venu il y a quelques années avec Stéphane Escher, parce que avec de la musique il accepte, mais dialoguer comme ça il est très rare, donc je suis fier qu'il ait accepté notre proposition. Ce sera un grand entretien sur le parcours de Philippe Djian et son dernier livre, bien évidemment. Et puis, également à la même heure, Brigitte Giraud et Mona Thomas pour un dialogue. Une lecture de Laurette Nobécourt, son dernier livre, Grâce leur soit rendue. Laurette Nobécourt, c'est toujours une écriture très mystique, très profonde, très puissante. Et c'est aussi une grande lectrice, c'est quelqu'un qui sait faire entendre elle-même son texte. Avant d'aborder la dernière grande lecture des correspondances à 17h dans la salle du théâtre Jean le Bleu. Les correspondances de Gaston Gallimard, c'est l'année du centenaire Gallimard. Nous avons mis un ensemble d'échanges entre Gaston Gallimard et puis ceux qui sont devenus les grands écrivains de la maison. Alors on retrouve Proust, on retrouve Céline, on retrouve Claudel, Martin Dugard. Et ces échanges sont extrêmement drôle en fait, parce que il y a évidemment des choses profondes, mais il y a aussi beaucoup de revendications. Ces écrivains qui veulent plus d'argent, parce qu'ils ont toujours des soucis d'argent, plus de considération, qui s'inquiètent que leurs livres soient en librairie plus vite, mieux, etc. Donc on a des querelles, on a même des insultes parfois. Céline est absolument abominable, il menace d'aller défoncer l'immeuble de chez Gallimard si on lui fait pas un chèque tout de suite. Claudel exige de plus en plus de choses, à tel point que Gaston Gallimard lui dit « Mais écoutez, cher maître, je vais faire une collection rien que pour vous, une couverture spécifique à votre œuvre, etc. » Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de vivacité, de drôlerie, d'humour, d'insultes à fleur et mouchetée. C'est la vie littéraire, mais comme si on y était, avec la découverte des coulisses, voilà. Et puis, il y a évidemment de la littérature là-dedans, mais extrêmement fort, voilà, et tout à fait édifiant, cet échange. Il y a deux comédiens qui porteront ces échanges, Michel Vuillermoz de la Comédie-Française, immense comédien, et puis là un petit changement dans le programme, ce ne sera pas Éric Elmosnino qui sera à ses côtés, puisque malheureusement il est retenu sur un tournage, mais il sera remplacé, très bien remplacé, par un jeune et très talentueux comédien qui s'appelle Michel Esco, qui, depuis qu'il a démarré sa carrière, collectionne les distinctions. Il a eu le Molière, il a eu plein de prix de critique. Il est formidable, et certains l'ont peut-être vu à la télévision au printemps dernier, puisqu'il tenait le rôle titre dans l'adaptation de La Recherche du Temps Perdu réalisée par Nina Campanese. Voilà. Et puis au théâtre, il vient de connaître un succès assez époustouflant, puisqu'il jouait dans Les Choses de Les Chaises pardon, de Ionesco, qui vient de tourner là pendant 2 ans. Voilà, donc grand comédien, et merci à lui d'accepter le remplacement et d'être en face de Michel Villermoz.
Et nos 3 invités, François Beaune, Rossé et Marie Delettre, dont 3 invités dont l'écriture fait lien dans des styles différents, puisque les correspondances, c'est quand même faire le lien humain à travers l'écriture, la lecture, exprimer des émotions, des sentiments. François, tu as sorti ton premier roman il y a 2 ans maintenant.
Ouais.
Il s'agit d'un homme louche. Ensuite, il y a eu une rencontre sur Manosque, dans un projet de résidence.
Oui. Ouais. J'ai passé l'hiver enfermé à Manosque. Ouais,
l'hiver enfermé à Manosque, quel triste sort.
Oui, c'était très, très, très difficile. J'ai beaucoup souffert. Ils m'ont enfermé dans une sorte de couvent, là, juste à côté de l'église Saint-Sauveur. Je fonctionnais avec les cloches.
T'aurais pu te retrouver à Lacoste, tu sais que on n'est pas très loin du château du marquis de Sade.
Ah, oui, mais ça, c'était pas trop ça là. C'était plus monacal, quoi.
Plus monacal, c'est sympathique.
Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi, Manosque et toute la région. Je faisais des footings là, c'était super. Vraiment, c'est.
Donc je disais que l'écriture fait lien en correspondance, l'écriture, le lien par les mots, mais aussi le lien par la rencontre. Tu t'es investi dans la vie locale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce qui s'est passé pour toi ici?
Alors, dans le projet de cette résidence d'écriture, tout cet hiver, donc j'y étais de la fin septembre, puisque j'y suis arrivé pour le festival des correspondances de l'année dernière, et je suis resté jusqu'en janvier. Le projet, au départ, c'était quand même d'arriver à finir ce livre qui vient de sortir, là, Un ange noir, que j'ai fini en janvier. Donc j'ai vraiment été un peu la tête dans le sac de ça. Et en parallèle, il y avait le projet de collecte d'histoires vraies, et d'un certain nombre d'ateliers d'écriture avec les gamins d'éponge, avec pour le coup ça s'est prolongé avec à porte-accueil, mais dans un cadre plus libre. Il y avait toutes les rencontres en fait que j'ai faites, le comité de lecture où il y a que des gens formidables, voilà toutes les rencontres qu'on peut faire grâce au hasard, quoi. Moi je crois beaucoup au hasard. Je crois pas en Dieu, mais le hasard j'y crois.
Le hasard c'est ton Dieu, donc.
Ouais, c'est vrai. Si c'est marrant, c'est un terme qui existe pas dans toutes les langues, le hasard, et c'est un terme arabe qui vient de l'arabe. C'est un très beau terme, je trouve. C'est vrai, c'est un truc qui,
alors,
ça marche.
Le hasard fait peut-être bien les choses ce matin. Tu parlais de ton dernier roman, Un ange noir, auquel tu t'es consacré. Et est-ce que tu peux parler de ce travail?
Alors, Un ange noir, donc, à cause des cloches, à côté de l'hôtel Volant, ça rend dingue, hein, les cloches. Donc, c'est vrai que c'est un livre un peu bizarre. Bon, le personnage, il s'appelle Alexandre Petit. C'est un type qui il a 37 ans. Il vit encore chez sa mère, un peu vieux garçon, et il part en cavale parce qu'il est accusé du meurtre de sa collègue de travail Elsa Collignon, qui a 19 ans. Et il se retrouve en cavale alors que lui est jamais sorti des jupes de sa mère. Il se retrouve à la rue, quoi. Et il va tenter de prouver son innocence, et il va chercher le supposé meurtrier d'Elsa, et pour se disculper, mais en même temps il n'est pas vraiment sûr que c'est pas lui qui l'a tué. Donc il va enquêter sur lui-même, et on va le suivre à la première, enfin c'est un bouquin à la première personne, on va le suivre dans sa pérégrination, dans son enquête, qui est une quête un peu existentielle aussi, puisqu'il se retrouve dans un, dans une situation qu'il n'aurait pas pu imaginer, dans une situation d'inconfort total pour lui, hein. Il se retrouve marginalisé, à traîner avec les punks à chiens de Lyon. Tout se passe à Lyon, à peu près, sauf il y a un passage à Romans-sur-Isère. Et voilà, on découvre ce personnage, on se met à penser un peu comme lui, je pense, hein, puisque on est avec lui dans ce. C'est un personnage très désagréable. J'ai passé l'hiver avec lui à Manosque. Je suis très content de vous le laisser. Voilà, c'est un type.
Alors François, dans ton premier roman, Un homme louche, j'ai ressenti, et il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont témoigné que tu parlais un petit peu des failles qu'on porte tous en nous, et quelquefois m'a semblé que tu décrivais des personnages qui étaient dans des états un peu borderline, un peu limite, en tout cas qui devaient s'étayer pour tenir dans le monde. Est-ce que tu peux nous parler de ce côté, juste, de ce version, peut-être de ce versant un peu psy?
Alors c'est pas psy, hein. J'espère que c'est jamais psy justement, mais c'est vrai que je considère que le sujet, je pense que Rosset sera d'accord avec moi, le sujet qu'on a à traiter, nous, que ce soit, c'est quand même essayer de raconter l'histoire du monde contemporain d'aujourd'hui, de parler de qu'est-ce que c'est aujourd'hui le réel. Et pour moi, c'est ça le sujet que je dois traiter. Et pour traiter ce sujet sous la forme de roman, et comme je commence aussi, j'essaie de découvrir, d'inventer, c'est plutôt des rencontres qu'une invention, puisque c'est toujours une concrétion de personnages, de gens réels qui deviennent un personnage de fiction. J'essaie de considérer le monde suivant l'angle d'un personnage qui se présente à moi, hein, et qui va avoir son biais, son inclinaison pour qui sera capable de regarder le monde un peu différemment, y aura cette espèce de subjectivité là et qui permettra de faire tenir le roman, quoi. Et c'est vrai que les deux premiers personnages que j'ai traités, c'est vraiment deux portraits, hein, les deux premiers romans. Le premier personnage, c'est Jean-Daniel Dugommier, c'est le personnage du voyeur. Mais un voyeur, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Daniel Dugommier, autant j'en ai pas beaucoup pour celui Alexandre Petit, le dernier là, qui est vraiment un vrai connard, quoi. Autant le Jean-Daniel Dugommier, c'est un type qui va essayer de comprendre le monde, expérimenter, chercher des choses, qui est dans une sorte de curiosité, et il a une incapacité à communiquer avec les gens, qui fait qu'il s'invente un discours en fait pour essayer de rentrer en contact avec le monde, et il se crée des expériences. Par exemple, il va dans les lavomatiques et il échange les habits que les gens ont mis dans les lavomatiques, et après il revêt ses habits et il devient les autres pour essayer justement de rentrer en contact avec les autres qui lui échappent tout le temps. Ou alors quand il lit le courrier des lectrices dans Marie Claire, il répond aux lectrices, il leur explique c'est vrai, je comprends, tu peux penser ça, mais il faut que tu gardes espoir, tu vois. Et il est vraiment, c'est un mec bien, quoi. C'est un mec bien. Autant Alexandre Petit, c'est pas un mec bien.
Lorsque j'employais le terme psy, évidemment, je ne voulais pas dire que tu écrivais un roman psychologique, mais que tu présentais des versants psychologiques qu'on a tous, avec des côtés touchants, puis des côtés aussi répulsants. Tu l'as bien fait. Et nombreux témoignages de lecteurs m'ont dit qu'ils avaient passé un très très bon moment, avec des moments qui dérangent et des moments de vérité aussi. En tout cas, moi je suis entouré de beaucoup de personnes qui se posent des questions un petit peu sur ce qu'ils vont devenir, puisque ce sont des gens qui sont dans une grande, grande, grande précarité. et qui sont dans des pertes sèches, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire du jour au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Et ils ont eu beaucoup de plaisir, à découvrir, à te découvrir, et puis aussi avoir cet apport culturel. Rencontrer un écrivain, pour eux, ça a été énorme. Peut-être pourront-ils rencontrer un rappeur, ce serait sympa aussi. Mais en tout cas, c'est ce lien dont je parle,
l'écriture, c'était un vrai échange,
ton écriture, mais aussi ce lien humain dans le contact direct.
Moi, on a passé 3 jours à porte-accueil, à se rencontrer, on a mangé ensemble, on s'est découvert, c'était un vrai échange, quoi. Je pense dans les deux sens.
Exactement.
Moi, j'ai encore un peu de mal à me considérer comme écrivain, si tu veux. Donc, mais oui, c'était. On a repris les textes ensemble. On a pu discuter de qu'est-ce que c'est qu'écrire, un peu cette espèce de fabrique, l'artisanat en fait de l'écriture. Moi, j'aime bien parler de plus de l'artisanat même que de, tu vois, de faire des grandes théories sur comment ça peut nous arriver par le ciel. Mais oui, essayer de. Et moi, j'étais ravi de cette expérience. Je pense qu'on s'est tous, on s'est bien trouvés, quoi, tu vois, que ce soit toi et moi puis les autres.
Et oui, on s'est bien trouvés. Et en même temps, il faut que tu puisses entendre que tu es un écrivain. C'est le public quand même qui décide. et je t'assure qu'il faut le prendre. C'est sûrement dans un souci de comme tu te déplaces ici dans la ville, dans les rues de la ville. Et en tout cas, bon nombre de ceux qui t'ont lu m'ont dit quand est-ce qu'il revient l'écrivain. Donc c'est un témoignage aussi d'amour et de lien.
Ouais, mais s'ils se rappellent jamais de mon prénom, les gens.
Mais moi, je leur rappelle. nous avons aussi fait un projet que tu as soutenu aux correspondances, Traces de vie. C'est un projet dans lequel je me suis investi en tant qu'éducateur, moi.
Et en tant qu'écrivain, d'ailleurs. T'as fait quand même un super texte.
Oui, en tant qu'écrivain amateur.
Un super slam, tu l'as entendu, Rossé, son slam ?
Non, non.
Ça s'appelle Rue de Châtillon.
Ok.
Et avec un projet avec Hubert, qui est sur le plateau, là, qui s'exprimera tout à l'heure.
Il n'est pas encore bien réveillé.
Il n'est pas encore bien réveillé, mais on va faire en sorte de le réveiller. Ce projet a été soutenu et validé par ta présence et puis aussi par cette action que tu as menée sur place. Parce que aujourd'hui, pour exister dans ce monde, on a toujours besoin d'une personne qui est en place, qui valide aussi. Pour des raisons de compétences, hein, pas simple pour avoir un coup de piston, mais en tout cas, on peut pas se prétendre artiste, il faut l'être et essayer de le faire en travaillant. Et tu nous as appris notamment sur le thème de la réécriture après le premier G.
Ouais, et moi, j'ai trouvé la lecture super, vraiment. On était tous émus, je crois, public, de finir par le petit bal perdu de Bourville et chacun redisant le même quatrain. Avec son style, et d'entendre ça, c'était superbe. J'ai été aussi très ému par les deux poèmes qu'a lu Eric, les deux poèmes de Rappelle-moi son prénom.
Oui, qui ont été écrits par Eric Gordillo.
Voilà, donc c'est un autre Eric qui a lu des poèmes d'amour très simples, très, très touchants. J'étais assis à côté de lui. Et c'était juste beau, quoi. Et je trouve que Eric, notre Indien, là, il est quand même...
charismatique.
Je l'aime beaucoup, quoi. Je trouve qu'il a super bien lu, ouais, vraiment. Et Philippe et Hubert et tous les autres. Et Hubert, quand il a dit cette sacrée colère, cette rage folle, c'était beau, quand même. Ouais.
Rossé, je te découvre physiquement, mais je connais ta musique. Enfin, je prétends avoir écouté ta musique, l'avoir écouté de nombreuses heures à une époque de ma vie où j'étais au Zénith. Après, c'est des raisons personnelles, mais c'est bien de pouvoir le partager quand même.
Ouais.
c'est quand tu as fait ton album Identité en crescendo. J'ai vraiment kiffé grave. j'embraye tout de suite sur ce que j'ai entendu. J'ai déjà entendu du jazz, moi.
D'accord.
Il y a un rappeur qui fait du jazz avec des textes où il y a une prise de position mêlée de sentiments et envoyé, comme on dit dans les magazines spécialisés, avec un flow charismatique. J'ai ressenti tout cela et je suis vraiment très heureux de pouvoir te recevoir et que tu puisses nous parler de ta musique, de ce que tu es venu faire aussi aux correspondances, puisqu'on est là aussi pour parler des correspondances.
Ok, bon, ben, déjà, enchanté. La ville est super belle, vraiment. Donc je me retrouve aussi dans ce lieu avec des cloches. Moi c'est en été et juste 2 semaines, donc j'arrive pas encore à voir ça. Voilà, c'est.
Est-ce que t'as calé ton flow sur les cloches? Est-ce que t'as essayé?
Non, j'ai pas encore essayé, mais c'est marrant d'être rythmé par les cloches. Disons que ça me change de Paris où c'est plus les klaxons, les voitures, etc. Là, c'est pour l'instant plus agréable. La semaine dernière j'ai fait des rencontres avec des jeunes avec lesquels on a fait des ateliers d'écriture. Donc il y en avait deux catégories, donc des jeunes qui sont en session de rattrapage parce que ils ont pas du tout un très bon niveau de français, et d'autres qui sont à la MJC, qui sont des jeunes rappeurs. Donc ça s'est à chaque fois très très bien passé. Avec les premiers, donc on faisait des exercices assez ludiques, qui restaient de la musique et en même temps un peu du jeu, en même temps des mots, des rimes, etc. C'était pas du tout évident parce que ils avaient pas envie de parler, ils avaient pas envie. En fait, ils se sentent très à l'aise, mais dès qu'il s'agit d'ouvrir la bouche et de sortir des mots, ils se sentent plus à l'aise du tout parce que ils ont l'impression qu'on va les juger parce que ils parlent pas bien français. Ils parlent très bien d'autres langues, mais voilà, ici à cet endroit-là, ben voilà, ils sont mal à l'aise d'ouvrir la bouche. Donc du coup, c'est un espèce de cercle vicieux, ça va pas du tout les faire progresser. Donc moi, je voulais vraiment les amener dans un état d'esprit où non, c'est pas grave, on s'amuse, on est là pour justement limite presque la faute d'orthographe ou ce qu'ils vont faire, c'est partie du jeu artistique. Ça c'est beau, voilà. Et on s'est bien amusé, on est rentré dedans et ça les a déconcentrés. C'est une bonne chose. Après, avec les autres, donc à la MJC, j'ai été surpris, étonné, mais comme à chaque fois, par le niveau que peuvent avoir les jeunes rappeurs de 15-16 ans, le niveau technique, un vocabulaire particulier aussi, une vivacité. Puis, à chaque fois, toujours se rendre compte que, à la différence de nous, de notre âge, de notre génération, eux, ils travaillent tous les jours. C'est-à-dire que le texte, l'écriture, une espèce de compétition, une espèce de sport, quoi, comme s'ils allaient au foot. Ils écrivent des textes tout le temps, 24 sur 24 en réalité. Ils écrivent en cours, au lieu des cours. Ils les écrivent chez eux, ils les écrivent dans le quartier. Ils les rappent tout le temps. Ils écrivent la nuit, le jour, tout le temps, ça s'arrête jamais. Et ça va être très très technique. Moi, un exemple, quand j'y étais, puis bon, ben voilà, on commence à parler. Moi, je leur demandais de raconter une histoire, en fait. C'était la même histoire pour tout le monde, parce que ça, ils ont beaucoup de mal, vu que à leur âge, le plus dur, en fait, c'est de canaliser une énergie et de faire quelque chose de cohérent avec. Et donc là, il y en a un qui me disait, ouais, bon, moi, les histoires, j'aime pas, c'est chiant de raconter une histoire, j'ai plus envie de partir, de raconter ce qui me vient, ce qui me sort de la tête. Je dis, non, faut rester sur cette histoire. Il fait, bon, d'accord, mais alors, faut que ce soit que des hêtes. Je fais, c'est que des hêtes, ça veut dire quoi, que des hêtes? Alors, que des rimes en hêtes, parce que j'adore les rimes en hêtes. Bon, d'accord, mais il me dit, non, mais par contre, je veux que ce soit cheval sur les hêtes. Explique-moi, cheval sur les hêtes, bah en fait, faut que ça fasse hêtes. Je fais, d'accord, ok, bon, bah on est parti. Et il a réussi à me raconter l'histoire comme ça. Et donc, alors, avec les pieds qui tombent à chaque fois sur la caisse claire, avec voilà, c'était quelque chose de très technique. Et voilà, ils ont cette énergie, ce truc... Qui est toujours, toujours impressionnant, même si il y a rien de canalisé encore et il y a rien encore de cohérent.
Il y a rien de cohérent, mais en allant faire ce lien, il me semble que tu poses aussi un cadre qui est quand même assez extensible, mais c'est quand même un cadre de référence. Moi, après, là, je parle parce que mon métier, c'est d'être éducateur. J'étais enseignant à une époque, donc c'est quelque chose qui me parle. Mais en tout cas, c'est vachement important et on doit se l'entendre dire. Et je vais en profiter que j'ai le micro ouvert pour ouvrir ma gueule en disant l'art, la musique, la peinture, l'écriture, c'est quelque chose qui fait lien quand les artistes se déplacent sur place, comme par exemple aux correspondances, et qui vont voir les minots, les plus jeunes, les moins jeunes, tous les gens qui, quelque part, ont quelque chose à exprimer à travers la vie qui mène, à travers l'espoir, le désespoir. Et on écoutera tout à l'heure cette saleté d'espérance. J'en profite pour faire un pont avec Marie Delettre, qui est une locale, qui sort son premier roman, mais qui se consacre à l'écriture depuis de nombreuses années et qui a beaucoup passé de temps consacré dans l'éducation nationale, notamment la littérature à la portée des enfants. Elle a écrit, c'est une enseignante, une chercheuse aussi, je pense, quelque part. Il y a eu une grosse recherche. J'ai lu ton livre, La littérature à la portée des enfants, ton premier bouquin, qui est assez technique et où tu montres comment on peut accompagner des groupes d'écriture.
Oui, bonjour. Alors, oui, effectivement, nos trois personnalités font lien, puisque moi aussi, j'ai fait écrire des enfants dans des centaines d'ateliers d'écriture. J'ai d'abord été intéressée par les enfants les plus en difficulté, c'est-à-dire ceux qui exprimaient des difficultés au niveau de la dyslexie, pour s'exprimer aussi. Et c'est vers cette recherche de les aider, de les amener à l'écriture, ensuite à l'expression, puis à la littérature, que je me suis engagée depuis très longtemps. Alors j'ai d'abord été formatrice en atelier d'écriture dans le cadre d'un diplôme qui est dispensé à l'université mais qui ne sert pas à grand chose parce que de toute façon moi je pense que comme disait Rosset tout à l'heure il y a un certain nombre de bases pour pouvoir s'exprimer. D'abord il faut faire fi de l'orthographe et de la grammaire. Alors là je sens les enseignants mes collègues qui vont bondir, mais effectivement pour les laisser s'exprimer je suis de la pédagogie freinée. J'ai inspiré de cette pédagogie qui a mené les enfants d'abord à s'exprimer et ensuite à travailler la langue. Donc, partant de là, j'ai effectivement fait écrire d'abord les tout petits, aux primaires. Ensuite, je me suis intéressée aux enfants, aux adolescents en difficulté, ceux sortis du système. J'ai eu une classe dans un dispositif de l'éducation nationale avant même d'être enseignante, qui était une classe d'adolescents de 16 à 20 ans, avec véritablement de grandes, grandes difficultés et qui, en plus, n'avaient plus aucun accès à un CAP ou à un BEP. Ils étaient exclus, c'était déjà des exclus. Et là, j'ai touché vraiment ce qui me faisait vraiment vibrer au niveau de se faire écrire. Et j'ai ouvert une association qui s'appelait l'Écrivantine. C'était en 2000 et à ce moment-là, j'ai publié un ouvrage qui est donc La littérature à la portée des enfants, sous mon vrai nom, puisque là, je parle sous un nom de plume, puisque je m'engage dans une toute autre voie que j'espère pouvoir emprunter plus allègrement que
tu
celle de
tu pourras nous parler de cette œuvre que tu as faite et que tu...
Alors oui, j'ai écrit un roman, j'ai enfin publié un roman parmi tous ceux qui sont dans mes tiroirs et qui est publié chez un jeune éditeur de la région en plus, de Aix. Ce sont les éditions Chirographère. C'est un roman en jeu de dupes sur l'écriture et sur les affres de l'écrivain. C'est un roman entre le réel et l'imaginaire. Contrairement à François qui travaille sur le réel, j'ai beaucoup travaillé et sur Internet avec François Bon autour de cette approche de la vie du réel au plus le plus cru. Et je pense que j'ai une sensibilité qui s'y prête pas trop. Depuis quelques années, j'ai eu des problèmes de santé qui font que je n'ai plus donné d'atelier d'écriture. J'en dispense quelquefois en privé. J'ai pour ambition de reprendre ces ateliers d'écriture, bien sûr. Et donc ce roman est un roman sur les affres de l'écrivain, c'est une confrontation d'un personnage écrivain avec ses personnages fictifs. Et l'intrigue est entre l'imaginaire et la réalité. Et voilà, c'est mon univers, c'est l'univers de Borges. Borges. Je rebondirai d'ailleurs sur cette phrase tout à l'heure dont tu parlais de hasard, et je dirais, j'ai pensé à cette phrase de Borges, toute rencontre fortuite est un rendez-vous, et je le crois vraiment. Et voilà, et donc oui, c'est mon écriture est plus dans un domaine entre le réel et la fiction. Je sors du monde et je dis volontiers que je me cache pour écrire et j'écris pour me cacher.
Les mots voilà. Pour soigner les mots. Aussi. Les mots M-O-T-S pour les mots M-A-U-X. Je ne vais pas slammer d'une manière minable. Non, c'est simplement pour illustrer et faire un petit clin d'œil à Rosset, à qui je vais rendre la parole avant que tu nous présentes la sortie de ton roman. Parce qu'on avait commencé à parler du lien, le lien dans l'écriture, le fait de se déplacer, d'aller à la rencontre des personnes. Et puis, on était quand même parti de ton art, parce que tu es un artiste, il faut aussi pouvoir en parler, je pense que c'est important. Et tout à l'heure, je te présentais en disant, voilà, moi, quand j'ai écouté le premier disque que j'ai écouté de toi, c'était « Identité en crescendo ». Et ça m'a vachement touché parce que j'ai entendu des sonorités de jazz, j'ai entendu aussi ton positionnement, beaucoup de voilà, il y a beaucoup de sentiments mêlés, mais avec des prises de position où voilà, ça tape du poing sur la table de temps en temps. Enfin, il m'a semblé, enfin en tout cas, je m'y suis retrouvé à certains endroits. Est-ce que tu peux nous parler de ton œuvre?
Oui. Donc oui, bah Identité en crescendo, c'est un disque qui est sorti en 2006, mais que j'ai commencé à écrire dès 2002-2003. Et en fait, donc en gros, bah voilà, le titre parle un peu de lui-même. Identité en crescendo, c'est un peu voilà l'additionnement des identités, mais que ce soit les identités un peu du métissage, mais que ce soit aussi les identités comme voilà la mémoire, le fait de venir de telle région, d'aller à telle autre, d'additionner tous nos souvenirs. C'est pas forcément des pays ou des origines, quoi. Ça, c'est vraiment l'identité dans quelle que soit sa définition, en fait. Et en fait, dans un monde qui nous demande toujours de choisir tu préfères Marseille ou Paris, ou alors tu préfères l'Algérie ou la France, tu préfères si, et en fait on nous demande toujours de choisir et il faut donner une réponse, on n'a pas le droit à plus. Et moi donc personnellement qui pense que c'est un blocage à l'épanouissement, parce que l'être humain, justement, s'il a la faculté de pouvoir s'adapter, de pouvoir additionner les choses, pourquoi est-ce qu'on l'en empêcherait? Donc voilà, tout ça c'est un truc. Donc j'ai écrit avant justement tous les débats sur l'identité, etc. C'est des choses qui sont arrivées qu'après. Et mais pour moi c'est une boucle, en fait. C'est des choses qui ne cessent de revenir. On y a droit tous les 10 ans, tous les 15 ans. Et au final, je pense que les meilleures choses qui ont été écrites de manière politique là-dessus ont peut-être été plus dans les années 50 ou 60 qu'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, bon bah voilà, les débats télé qui parlent de ça. Ne disent rien d'intéressant, c'est juste entre guillemets de la politique stratégique qu'autre chose, et c'est pas plus intéressant que ça. Moi, c'est quelque chose en fait que voilà, que j'avais envie de sortir, mais plus comme un besoin que comme aujourd'hui ce qui se passerait un peu où tout le monde en parle, quoi. C'était vraiment plus un besoin personnel de parler de ça, surtout que voilà, en tant que rappeur, être aussi justement mis dans la case du rappeur avec tous les préjugés qu'il y a sur cette musique, voilà, dès qu'on dit qu'on fait du rap mais qu'il y a aussi un côté jazz ou un côté rock, etc. dedans, bon bah c'est toujours des réactions ou l'applaudissement parce qu'on est un bon élève et qu'on dit pas de gros mots ou alors c'est pas assez dur pour être caricaturé, enfin, mais voilà, donc c'est très dur, je trouve, en France de vivre de manière normale en étant quelqu'un de singulier et normal, de pas rentrer dans un troupeau. Et donc voilà, Identité en crescendo, c'était un peu ça, c'était un peu tous ces paradoxes, en fait.
Oui, Identité en crescendo, moi il y a un moment fort dans une de tes chansons où tu dis En gros, il faut pas oublier d'où on vient, et mon père a combattu Vichy. La collaboration, c'est un sujet d'actualité, les micros sont ouverts et on va en profiter pour en parler parce que on est sacrément en train de se barrer en couilles là. Et c'est le moment d'avoir des artistes qui peuvent le dire sans violence, en ayant une prise de position claire, nette et précise. Nous sommes des citoyens qui défendons aussi la mémoire de nos pères. Rossé, pour la suite de ton œuvre, on va repartir vers de la légèreté et de la création artistique. Qu'est-ce que ton dernier album, tu peux nous en parler?
Ouais, donc oui, donc après je suis parti donc sur un autre album, L'être humain et le réverbère, où justement ces prises de position politiques, etc., identité en crescendo, j'étais vraiment enfoncé là-dedans et comment dire, j'avais le besoin de plus de légèreté, de partir sur peut-être autant de convictions, etc., mais avec une forme peut-être beaucoup plus légère en fait, et une écriture aussi plus légère, parce que le rap c'est quand même une musique qui s'écrit sur la musique. Identité en crescendo, je l'ai pas écrit sur la musique, donc il y a une écriture qui est beaucoup plus linéaire. Alors que là, le dernier album, L'être humain et le réverbère, c'est vraiment écrit sur la musique, donc il y a vraiment le groove du rap. Et L'être humain et le réverbère, c'est, je dirais, c'est l'éloge au déplacement. C'est voilà un peu comment j'imagine, j'ai imagé la chose, c'est que je compare l'être humain au réverbère en expliquant que pour moi, l'être humain, c'est quelque chose en fait qui est droit, haut, figé, rigide, et qui regarde avec toute sa prétention les deux rues qui l'éclairent, mais qui a cette incapacité vraiment à s'adapter, à bouger, à vraiment voyager. Quand il voyage avec ses préjugés, il ne fait qu'éclairer, il reçoit rien. Donc c'est un peu ça, l'être humain et le réverbère.
L'être humain et le réverbère, un joli programme, poétique en plus, dans les mots. Ce soir, tu te produis à Manosque, donc ça se passe à la MJC, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, au Café Provisoire.
Au Café Provisoire de la MJC, à partir de...
Je sais plus.
Moi non plus, j'ai pas fait mon boulot, je vais me faire virer.
C'est 19h et c'est gratuit.
Voilà, c'est 19h et c'est gratuit. Donc, allez voir Rossé, je vous assure, vous serez pas déçus. Moi, j'ai passé une année entière à l'écouter dans ma bagnole et environ 2 heures par soir. Donc, je t'ai pratiqué grave. Non, c'était vraiment une belle découverte avec des sonorités mêlées. Enfin, en tout cas, c'est un bel artiste et vous avez pu entendre aussi ce qu'il nous a dit. Donc, on pense qu'il y a encore des citoyens dans ce pays responsable. Je vais me tourner vers Marie, qui sort donc son premier roman, après avoir consacré de nombreuses années à l'écriture. C'était important pour elle de le dire, parce qu'elle a été beaucoup dans le lien vers les autres. Et donc, je vais te laisser, pour le mot de la fin, présenter la sortie de ton roman. Tu es de la région, tu habites pas très loin de Manosque, et c'est une occasion de dire, voilà, j'ai écrit et j'aimerais bien qu'on me lise.
Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon qu'on a oublié de dire le titre, qui est « Jeu de dupes ». Ça paraît dans quelques semaines, en librairie dans quelques semaines. Je sais pas, tu voudrais que je...
Tu dis ce que tu veux, si c'est le mot de la fin.
Oui, c'est le mot de la fin, ça paraît dans quelques semaines.
Donc le roman de Marie qui sort dans quelques semaines, et tu nous rappelles le titre, s'il te plaît.
Jeu de dupes.
Jeu de dupes, Marie de Lettres, dans toutes les bonnes librairies de Manosque. Il y en a deux, donc c'est pas très compliqué à trouver. En ce qui concerne les correspondances...
Il y en a une qui est mieux qu'une autre. Hein.
Oui, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu de révolte dans... Hein, il y a des gens ici qui prennent position, mais tu as raison.
Mais c'est une position politique. Choisissez bien votre librairie, votez bien en 2012.
Je suis donc viré définitivement, c'est clair. Je vais aller travailler chez Nagui. Le mot de la fin, de dire merci Rossé, merci François, merci Marie. Pour votre générosité, nous avions 3 artistes là qui avaient un point commun, le lien humain. Et comme le dit le slogan de Fréquence Mistral, on ne se moque pas de vous. Je pense que ce fut le cas. Pour terminer cette émission, je crois que Vince a un programme à nous.
Oui, d'abord, on va écouter Raphaël Franz Kuhlmann avec une petite lecture et on clôturera avec un titre de José Masalté d'Espérance. Merci James, merci à nos invités.
Merci à toi Vince.
Et bonne correspondance à tous.
Très chère Madame Lapoule, puis-je débuter cette lettre en vous appelant belle maman ? Cela vous va comme un gant, et ce n'est pas vous faire injure que d'anticiper sur les jours à venir, n'est-ce pas ? Oh, belle maman, je suis si heureux que vous ayez accepté de m'accorder la main de votre fille. Je suis le plus heureux des renards, j'en ai l'eau à la bouche, les papilles qui frétillent, l'estomac qui se rétracte, le bonheur sans doute. Alors voilà, brièvement, parce qu'il me reste 1000 choses à préparer. Je vous propose de nous retrouver après la cérémonie sous le grand chêne, juste à côté de Monterrier. Vous savez, là où soi-disant on aurait retrouvé des plumes de feu votre mari Lecoq. J'aimerais que ce soit un festin mémorable dont on se souvienne longtemps. Aussi, je vous propose de venir avec toute votre famille. Votre charmante et grassouillette fille, bien sûr, mais aussi ses frères et sœurs. Tous ces délicieux poulets avec qui vous formez une si belle famille. Venez aussi avec les coquelets et même les poussins, n'ayez pas peur, je m'occupe de tout. Et pour que votre triomphe soit complet, pour que toute la basse-cour reconnaisse enfin votre supériorité, je vous propose d'amener avec vous la dinde, son dindon de mari et leurs petits. La canne et ses canetons seront aussi les bienvenus, pareil pour les quelques bécasses qui vivent avec vous. Par contre, vous comprendrez que je ne tiens pas à la présence du fermier, ni de son chien. Avec tout ce qu'il a insinué à propos de votre mari, je ne tiens pas à inviter cet indélicat. D'ailleurs, ce serait bien que vous ne lui parliez pas de notre cérémonie. Il risque de tout gâcher, c'est un gros rusto. Par commodité, je tiens à vous signaler qu'il y a un trou dans la clôture juste à l'arrière de la mare aux canards. Cela vous permettra de vous éclipser discrètement. Vous pensez que cela risque de faire trop de monde ? Voyons, il s'agit tout de même de votre fille, de votre famille. Et j'aime voir grand. Je n'aime pas les fêtes où l'on manque. C'est si mesquin. Et puis, ne vous en faites pas, je ne serai pas seul. La fouine et la belette, deux vieilles amies, seront avec nous. Et j'attends encore la confirmation de mon cousin, le loup. Vous verrez, ce sera chouette. C'est le genre de fête dont je raffole. Que dire encore ? Vous trouvez étrange d'organiser une fête la nuit ? Mais non, ce sera du plus grand chic de festoyer sous la lune. Madame la poule, il faut vivre avec son temps. Et puis au moins, personne ne nous ennuiera. On sera tranquille. En attendant le grand jour, avec des gargouillis plein la panse, belle maman, je ne vous souhaite que du bonheur.
Bien que j'ai eu de l'aisance à partir vers l'inconnu, j'aurais pourtant jamais cru y mettre autant d'excellence. Mon amour propre comme une lance pointe vers l'obscur le tordu, la besogne d'un mec obtus qui s'abîme de persistance. J'ai bien failli perdre le sens et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu, celle qu'on nomme des espérances. Pourtant je reste comme en transe, attaché comme un mordu à cette chose qui épuise-tu, me ferait déplacer l'immense. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, suis épuisé, y'a plus tu. Y'a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance, c'est qu'elle me colle, me pollue. Ma saleté d'espérance. J'aurais voulu me prélasser entre divan et télé, mais y'a la sueur qui coule et les idées qui dérangent. La sueur noie les idées et je reste un peu lassé. Mais bientôt une vague me saoule, m'aspire, me noie, me démange. Le monde s'est laissé régler, les foules sont apprivoisées. L'économie est une bible, consommation est leur ange. Et on prie l'esprit pillé pour qu'il nous laisse épargner. On croit qu'on décroche la lune avec nos ailes de mésange. Et quand je parle de mes projets introuvables chez le VRP, on trouve que je suis endiablé, on dit de moi que je m'enfonce. Fini par dire que je suis fâché, fâché, je deviendrai fâché avec ma saleté d'espérance. Les mots de tête ont repris et tous les mots qu'on s'est dit. Nos vieux plans, nos stratégies, valables pour changer trois mondes. On pense plus, on les oublie, on en rit et on sourit. Pourtant dans la tête réside une voix endormie qui songe. Elle sommeille dans un bon lit, à l'édredon bien rempli. Elle s'enfonce dans tant de repli que son lit ressemble à une tombe. Mais dans mon esprit meurtri, cette vie n'est pas endormie. Son lit doit être fait d'ortie car elle gratte et ça me ronge. Elle m'impose tous ses ennemis, elle m'engraine vers les conflits. Planche ma tête dans mon vomi, quelles qu'en soient les conséquences. J'ai des taches d'antipathie, des boutons de fièvre, t'as compris. C'est ma saleté d'espérance. Entendra ce morceau, ça sera parce que je perdure. Ou bien parce que en coup dur, je l'aurais chanté dans le métro. Mais s'il passe à la radio ou s'il crache dans ta voiture, sache qu'à son stade d'écriture, j'étais assis dans un bistrot, refusant de vivre des rimes, préférant vivre d'intérim. Pour laisser libre cours à l'art, sans patron, sans révérence. Laissant loin de moi cette frime qui rend bien médiocrissime. Laissant mes mots devenir star, révolutionner cette science. Ma plume jouant de l'escrime pour m'aiguiser dans l'estime. Autant des formes assassines et pourtant je reste dans la danse. C'est que dans mon malheur prime, mon ami le plus intime, ma salle. T'es d'espérance.